Pas seul est digne de louange. Pas seul est digne d'adoration. Oh Seigneur, merci. Nous nous rasseyons tout en demeurant dans cette attitude de recueillement. Notre Père et notre Dieu, notre raison d'être dans ce lieu qui est ta maison et de t'apporter, Seigneur, ce que tu attends de chacun de nous. Notre cœur, notre vie, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance, Seigneur. Mais nous sommes là également pour recevoir de toi ce que tu as préparé pour chacun de nous. Nos cœurs, Seigneur, ont besoin de nourriture, notre âme, notre esprit ont besoin de quelque chose, Seigneur, qui descend tout droit de ton cœur. Et à cet instant, nous te prions, Seigneur, de poser ta main sur ton serviteur et de lui donner, ô Dieu, toute cette grâce dont il a besoin pour pouvoir apporter ta nourriture à ton peuple. Seigneur, nous prions pour que ta parole soit vraiment ce repas semé, exquis, plantureux. Seigneur, qui va faire les délices de nos âmes. Que ta parole ce matin soit pertinente, qu'elle puisse rencontrer les besoins, non seulement de l'âme et de l'esprit, mais aussi du corps. Car lorsque tu envoies ta parole et que ton peuple la reçoit, là, Seigneur, toutes sortes de grâces jaillissent et se répandent dans l'homme, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Et nous prions, Seigneur, qu'il en soit de même pour nous ce matin. Seigneur, que tu nous fasses vraiment du bien par ta parole. Oh, nous voulons qu'elle jaillisse comme cette source d'eau de vie. Et que cette eau, Dieu, nous remplisse, étanche la soif qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Qu'elle calme, qu'elle rassasie chacun de nous de cette faim. Dépose-la dans nos cœurs, dépose-la dans nos pensées, dépose-la dans nos sentiments, dépose-la dans tout notre être, Seigneur. Merci pour cette parole merveilleuse. Merci Jésus, parle-nous, fais-nous du bien par ta parole. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous allons donc nous préparer à recevoir la parole de Dieu, non seulement à l'écouter, mais à recevoir cette parole pour l'intégrer à notre vie. Car c'est lorsqu'elle arrive dans notre cœur qu'elle devient véritablement une réelle bénédiction pour tout notre être. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais parler de la thérapie de Dieu pour les nations. Alléluia. Parler de la thérapie de Dieu pour les nations suppose que les nations, que nos pays sont dans un état de bonne santé? Non. Dans un état de maladie. Et nous allons voir ensemble que Dieu n'est pas indifférent, mes amis, à toutes ces maladies qui rongent nos nations, à toutes ces maladies, à toutes ces pathologies qui détruisent les nations et qui les maintiennent dans la malédiction, qui les maintiennent sur cette voie large qui conduit tout droit vers la ruine et la perdition éternelle. Dieu n'est pas indifférent, mes amis. Quand il regarde, il jette ce regard sur les nations. Croyez-moi, il pleure, car elles sont rongées par la plus terrible des maladies. Et le thème, plutôt le texte qui va nous servir de méditation de base à ce thème ou à cette réflexion, c'est tiré évidemment de ce passage que beaucoup d'entre nous connaissent, 2 Chroniques, chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Voilà, à partir du verset 11, chapitre 7, verset 11, nous lisons, « Salomon acheva donc la maison de l'Éternel et la maison du roi. Il réussit dans tout ce qu'il avait eu à cœur de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit comme maison des sacrifices. quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. Évidemment, la prière que Salomon avait faite, c'était à l'occasion de la dédicace du temple qu'il venait de construire pour son Dieu, pour le Dieu d'Israël. Et eh bien, maintenant, ce n'est plus le tabernacle, ce n'est plus cette tente qu'on devait démonter et puis continuer la route vers la terre promise. Et quand on s'arrêtait quelque part, et de nouveau, on montait ce tabernacle ou cette tente d'assignation ou cette tente des témoignages, et on restait là pendant un temps jusqu'à ce que Dieu donne les instructions. Et de nouveau, on démontait tout. Mais là, enfin, le peuple étant déjà arrivé dans la terre promise, eh bien, Salomon, d'abord c'était son père qui avait projeté de construire la maison au Seigneur, au Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais Dieu ne le permit pas, c'est finalement un de ses fils Salomon, qui va donc avoir ce privilège énorme de construire la maison de Dieu. Alléluia. Et après la construction, eh bien, il va faire une dédicace. Il va donc dédicacer, il va donc consacrer ce lieu pour qu'il appartienne à jamais à son Dieu, pour qu'il appartienne à jamais au libérateur d'Israël, pour qu'il appartienne à jamais à ce peuple qui s'était acquis par grâce en le délivrant du joug et de l'asservissement ou de la servitude des Égyptiens. Gloire à Dieu. Amen. La thérapie de Dieu pour les nations, pour nos pays, non seulement nos pays d'Afrique, mais aussi nos pays, les pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie ou d'Océanie. Peu importe où se trouvent les hommes, eh bien, là, il y a un besoin de guérison. Parler de la thérapie de Dieu pour les nations, c'est parler des facteurs qui contribuent à la guérison, à la délivrance des nations. Parler de la guérison des nations, cela suppose que les nations sont dans un état de maladie, qu'elles sont donc rongées par toutes sortes de pathologies morales et spirituelles, qu'elles sont donc en proie à toutes sortes de virus terribles et destructeurs. Et à cause de tout cela, les nations souffrent. Mais Dieu n'est pas indifférent à la souffrance des nations, car elles sont peuplées par des âmes pour lesquelles Christ est mort. Alléluia. Où que l'homme soit, quel que soit le type de gestion qu'il a opté ou de gouvernement, qu'il soit organisé en royauté ou en royaume, en république, ou simplement en région, que sais-je, en principauté, peu importe. Ce sont des pays, ce sont des nations, ce sont des hommes qui vivent. Et la Bible déclare que ces nations ont besoin de guérison. Et la thérapie de Dieu est claire. Nous la trouvons, mes amis, dans ce chapitre. Nous la trouvons dans ce passage. Et à travers toute l'Écriture, nous voyons que Dieu cherche, d'une manière ou d'une autre, à débarrasser nos pays, nos nations, de toutes sortes de gangrènes destructrices, de toutes sortes de cancers sociaux, moraux, spirituels, et que sais-je. Vous le savez tous, une thérapie, c'est un traitement médical approprié, n'est-ce pas? Dans le but d'apporter la guérison à un corps malade, à un corps rongé par des microbes, par des virus, par des bactéries, par toutes sortes d'éléments pathogènes. Et la nature de la thérapie sera fonction de la nature de la maladie et de la pathologie, oui ou non. On ne veut pas prescrire un traitement pour quelqu'un qui souffre de la malaria comme s'il souffrait de la lèpre.
Oui ou non?
Pour la malaria, il y a un traitement approprié. Pour la lèpre, il y en a aussi. Donc pour chaque type de pathologie, il y a une thérapie appropriée, adaptée. Dès lors que vous vous trompez de thérapie, eh bien, quelle que soit votre sincérité, cela n'apportera rien. Vous pouvez prendre quelqu'un qui souffre de lèpre ou qui souffre de telle ou telle autre maladie, lui prescrire un médicament, être tout à fait sincère en disant, voilà, ce médicament a tel principe actif, et ne jamais voir la guérison prendre place dans le corps du malade. Il faut donc une thérapie appropriée. Pour un malade, quel qu'il soit, le médecin va établir un diagnostic, va faire une analyse, va faire des observations. Et en fonction de tout cela, il va établir un protocole. Et puis à partir de tout ça, ben, on va prescrire un traitement, n'est-ce pas? Un traitement que le malade devra observer à la lettre. Si ce sont des antibiotiques, ben, il devra le prendre dans la durée, dans le temps que le médecin lui a fixé. Car lui seul connaît. Voyez-vous, si vous prenez un ou deux jours, il dit, allez, je m'en fous. Vous ne serez jamais guéri. Oui ou non? Bien, pour n'importe quel type de maladie. Si on ne fait pas attention, eh bien, la maladie va vous conduire tout droit vers la destruction. Et nos nations sont malades. Nos nations, mes amis, sont rongées par la plus terrible des maladies. Une petite radioscopie morale et spirituelle de nos sociétés nous montrerait tout de suite la réalité de nos pays, la réalité de nos nations. Elles sont malades, véritablement. Malades de corruption un peu partout. Malades d'injustice sociale. Malades d'idolâtrie. Malades d'ethnisme. Nous sommes bien placés pour savoir combien l'ethnisme est destructeur. Oui ou non? Combien le tribalisme est une véritable gangrène pour une nation. C'est pourquoi en tant que serviteur de Dieu, en tant que membre du corps du Christ, nous ne devrions pas juger les gens d'après leur faciès. Nous ne devrions pas regarder aux gens d'après la forme de leur nez, ni la texture de leurs cheveux. Tout homme est une singularité. Tout homme est une créature merveilleuse. Peu importe la couleur de sa peau, peu importe l'appartenance à telle ou telle autre ethnie. Quand Dieu nous regarde, il ne se préoccupe pas de tout cela, mes amis. Ça, c'est l'ennemi, l'adversaire, qui est là toujours pour diviser, qui est là toujours pour détruire, qui essaye de faire vibrer, ou du moins de toucher la fibre ethnique, tribale, pour dresser les gens les uns contre les autres. Et en tant qu'Église du Seigneur, nous devrions nous insurger contre de tels comportements. Car Christ est mort pour l'humanité tout entière. Alléluia. Christ n'a pas de préférence pour une tribu particulière, pour une langue particulière, pour une culture particulière. Non, quand il est venu, il a dit ceci, Dieu a tant aimé, y compris toi. Le Moussakata, il t'aime. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, y compris toi. Toi, le Bambara. Dieu a tant aimé le monde. Il aime chacun de nous du même amour. C'est le péché qui dresse les tribus les unes contre les autres. C'est le péché qui dresse les nations les unes contre les autres. Oui, nos pays sont malades. Malades de la fausse religion. Malades de l'intégrisme religieux. Regardez un peu partout, mes amis, combien il est difficile de vivre sa foi sans que cela vous attire toutes sortes de problèmes. Sans que cela ne vous attire la colère de ceux qui ne partagent pas la même foi que vous. Il y a des gens qui sont traqués comme du gibier, qu'on essaye à détruire comme des rats, simplement parce que leur conviction dérange, simplement parce que leur croyance, eh bien, n'est pas partagée par l'ensemble de la population, de la tribu. C'est ainsi qu'il y a toutes sortes d'intégrismes religieux Mais il y a aussi une sorte d'intégrisme athée. Une sorte de militantisme athée. Quand il parle de ceux qui croient, c'est comme s'il parlait de gens arriérés. De gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent rien. Alors que dans la plupart des cas, tous ces athées-là sont en réalité des ignorants qui s'ignorent par rapport à Dieu. Ils ne connaissent rien de Dieu. Ils tirent la conclusion que Dieu n'est. Les nations sont malades de toutes sortes d'états, de toutes sortes de choses terribles, mes amis. Je parlais de la fausse religion, de la violence, voyez-vous, du manque d'amour, de la haine. Tout cela, mes amis, sont les symptômes de la plus terrible des maladies. Le symptôme à la base de l'ethnisme, du tribalisme, à la base de la haine, à la base de l'idolâtrie, à la base de la fausse religion, à la base de tout cela, de toutes ces maladies qui gangrènent nos pays, eh bien, la base de tout cela, eh bien, c'est le péché, encore le péché, et toujours le péché. Gloire à Dieu. Et puisque la maladie a sa cause et de nature spirituelle, il faut alors une thérapie appropriée. Si les gens se dressent les uns contre les autres, si les gens sont remplis de cupidité, de convoitise, eh bien c'est parce que le cœur sont rongés par le péché. Alléluia. Les cœurs sont malades. Alors il faut une thérapie appropriée. Et l'Église de Jésus-Christ doit comprendre qu'elle a un rôle à jouer dans la guérison des nations. L'Église de Jésus doit réaliser sa responsabilité, mes amis, en tant que facteur important, en tant qu'acteur important dans la guérison des nations, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient des nations qui ont une autre culture que la culture chrétienne, qu'elles soient des nations rongées par l'animisme ou par telle ou telle autre religion, même monothéiste, ces nations-là ont besoin de recevoir la guérison. Et la guérison ne va pas tomber du ciel comme ça, simplement secouant le cocotier céleste et puis tout d'un coup, la guérison tombe. Mais la Bible est claire, nous l'avons lu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, alléluia, c'est donc le peuple qui doit faire quelque chose afin que la guérison soit envoyée vers les nations. Et pour cela, il faut que ce peuple réalise la nécessité et la priorité, eh bien, d'être, d'abord, de prendre conscience que nos pays sont malades, et puis de réaliser la nécessité et le besoin, et l'urgence, de pouvoir chercher la solution auprès du Seigneur. C'est donc une priorité pour nous, voyez-vous. C'est donc une priorité pour l'Église. Une Église, et c'est le peuple de Dieu, je reviendrai, qui assume pleinement sa vocation d'être la maison de Dieu sur terre. Une Église, mes amis, qui trouve du plaisir dans sa relation intime ou de plus en plus intime avec son Seigneur, cette Église-là, eh bien, est une Église par laquelle la guérison va être donnée aux nations. Mais il faut qu'elle réalise que c'est une nécessité, que c'est un besoin. Mais dans la plupart des cas, nous nous comportons, mes amis, comme si tout baignait dans l'huile spirituelle autour de nous. Nous nous comportons comme si tout allait comme sur des roulettes, que le Seigneur du haut du ciel, en nous regardant, eh bien, il acclame, il applaudit, c'est formidable. C'est extraordinaire que les nations continuent comme ça, alors que quand il jette son regard sur les nations, il pleure, car il voit les nations de plus en plus désaxées, de plus en plus distraites, bernées, trompées, de plus en plus rongées par le plus terrible des virus, à savoir le péché. Il y a un proverbe africain, je crois que je l'ai déjà eu à partager ici. Il y a donc un proverbe africain qui dit ceci. Chaque matin, une gazelle se lève en sachant qu'elle doit courir plus vite que le lion le plus rapide. Faute de quoi, elle se fera manger, dévorer. Et chaque matin, un lion se lève quelque part dans la brousse africaine en sachant qu'il doit courir plus vite que l'antilope la plus lente, sans quoi il mourra de faim. Chaque matin, eh bien, pour la gazelle et pour le lion, courir est non seulement, mes amis, un besoin, mais aussi une nécessité. C'est seulement à ce prix-là qu'elle pourra, la gazelle ou le lion, rester en vie. De même, l'Église devrait se lever chaque jour quand ceux qui la constituent se lèvent, devraient savoir qu'ils sont appelés à prier, à intercéder pour leur pays, afin que Dieu envoie la guérison. Alléluia. Gloire au Seigneur. La guérison. Elle est indispensable. Il n'y a pas d'autre thérapie. Il est dit, le peuple sur qui est invoqué mon nom. Qui est ce peuple? Puisque c'est à partir de ce peuple, c'est au travers de ce peuple, c'est en exaucement, en réponse à sa prière, c'est en honorant une certaine attitude qu'elle aura, d'humilité, de recherche de Dieu, qu'alors Dieu enverra la guérison. Puisque il faut absolument que ce peuple fasse quelque chose. Il faut absolument que ce peuple assume sa vocation, fasse quelque chose pour que Dieu envoie la guérison, car Dieu veut l'envoyer. Alléluia. Je guérirai le pays. C'est un futur simple. Hein? Dieu est affirmatif. Dieu est déclaratif. Il promet de... Celui qui fait cette promesse s'appelle fidèle et véritable. Donc ça veut dire que si nous ne voyons pas des guérisons prendre place dans nos nations, si nous ne voyons pas nos nations, mes amis, être débarrassées de toutes ces tares spirituelles, morales, sociales qui la rongent ou qui les rongent, si nous ne voyons pas tout cela, c'est que la faute nous incombe. C'est que nous ne cherchons pas véritablement cette réponse auprès du Seigneur. Car il faut que le peuple sur qui est invoqué son nom, eh bien, joue son rôle. Fasse sa part pour qu'enfin amener Dieu à faire la sienne. Qui est ce peuple? Évidemment, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et vous la savez tous, puisque comme nous devons avancer, qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, l'ancienne alliance a été déclarée caduque. Alléluia. Désormais, mes amis, il y a moyen de faire partie du peuple de Dieu. Puisque Dieu est esprit, il est donc important que ceux qui fassent partie ou qui veulent faire partie du peuple de Dieu naissent aussi de l'esprit. On ne peut pas se retrouver par hasard membre du peuple de Dieu simplement parce qu'on l'a voulu. Simplement parce qu'on a une religion dite chrétienne. Pas du tout, mes amis. Le peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué, ce peuple qui est appelé à assumer sa responsabilité dans la guérison des nations, ce peuple-là, eh bien, est constitué des hommes et des femmes de toute langue, de toute culture, de toute couleur, de tout pays, et qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ce peuple-là constitue ce qui a été un mystère pendant des siècles et révélé dans le temps de la fin, c'est-à-dire l'Église. Le peuple dont il est question, sur qui le nom de Dieu est appelé, est invoqué, ce peuple qui est appelé à prier n'est autre que l'ensemble de ces hommes et de ces femmes qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Alléluia. Et nous sommes de ce peuple, oui ou non? Alors, c'est à nous de faire ce que Dieu attend que nous fassions afin qu'il puisse guérir notre pays, qu'il puisse guérir nos pays, où qu'ils soient. Il a promis et il se tient derrière sa promesse pour l'accomplir. Que devons-nous alors faire? Que dois-tu faire? Parce que c'est beaucoup plus facile de s'adresser à la foule en disant « Que devons-nous faire ?» Mais c'est d'abord une responsabilité de chacun de nous.
Alléluia. Nous l'avons vu tout au long de cette semaine. Tout a tourné autour de la prière. Nous avons vu combien la prière collective a sa place, mais aussi la prière individuelle. Et nous devrions non seulement prier seuls, entretenir notre vie de prière, intercéder pour notre pays, pour nos pays, nos nations, sur le plan individuel, mais nous devrions également le faire, mes amis, sur le plan communautaire, sur le plan collectif, car la prière du peuple de Dieu a une grande efficacité. Dieu est sensible à la prière de son peuple. Et nous voyons cela à travers tous les livres des Actes. À chaque fois que le peuple de Dieu, à chaque fois que les enfants du Seigneur se sont retrouvés de commun accord pour prier, pour supplier le Seigneur à genoux, à chaque fois le ciel s'est ouvert. À chaque fois Dieu a envoyé la bénédiction. Alléluia. Eh bien, ce principe est encore valable aujourd'hui. Mais malheureusement, on a confondu le peuple de Dieu dans la nouvelle alliance avec tout ce qui a été dit avant. Alors, on a vu des démarches tout à fait louables. Attention, hein. N'interprétez pas mal mes propos. Des efforts louables de rassembler tout le monde pour essayer de prier pour le pays. De rassembler tout le monde pour essayer de prier pour la paix, etc. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui va faire venir la bénédiction. Dans la plupart des cas, dans ces rassemblements, il n'y a que la mort. Pourquoi? Parce que vous faites venir des gens qui n'ont rien à voir, rien à cirer avec le Seigneur. Des religieux de tous bords avec des barbes jusqu'au nombril. Tout simplement parce qu'ils ont le nom de Jésus dans la bouche. Des gens passent tous appartenant à des différentes croyances religieuses, on les met ensemble en disant « Prions pour que Dieu guérisse !» Ce syncrétisme-là est mortifère. Cet œcuménisme nous dessert. Nous devons, évidemment, nous retrouver. Ça ne me dérangerait pas d'être avec quelqu'un qui ne partage pas mes convictions pour une cause que celle qui est la cause spirituelle. Ça, c'est autre chose, hein. Parce qu'il faut faire la part de choses. On peut m'inviter à encourager des gens quelque part, même sans qu'ils soient des chrétiens. Ils peuvent être musulmans, ils peuvent être bouddhistes, etc. Mais ce sont des humains, alléluia. Il y a en eux quelque chose de noble qui aspire à la paix. On peut partager, par exemple, en disant « Que pouvons-nous faire pour faire avancer la société ?» Mais lorsqu'il s'agit de l'intercession, c'est autre chose. Le Dieu que nous servons est jaloux. Comment voulez-vous que je me retrouve avec quelqu'un qui va invoquer Saint Raphaël? Enfin, je ne sais pas s'il existe, je dis ça comme ça. Pendant que j'invoque le nom qui est au-dessus de tout nom, devant lequel tous les anges se prosternent. Comment voulez-vous que je sois à côté de quelqu'un? Lui va invoquer l'archange Michel. Dites-moi, si je le fais, c'est pour la forme. Alors dans ces cas, qu'est-ce que je cherche? La célébrité? La notoriété? Dieu ne nous appelle pas à courir après la célébrité. Dieu ne nous appelle pas à être célèbre. D'ailleurs, aller au-devant de la célébrité, c'est courir des très très gros risques. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, c'est là que le diable en promenade vous rencontre. Mais oui. Oui, parce que vous voulez que tout le monde vous voie. Jusqu'à ce que des démons vont vous voir. Ah mais oui. Vous voulez vous mettre tout le temps en exergue, voyez. Pour certains, le ministère est devenu même une sorte d'attraction. Eh oui. Vous savez, il y a des parcs d'attractions dans des grandes villes. Hein? En Europe, même ici, on amène les enfants, non? Les enfants s'amusent. C'est un parc qui attire. Il y a donc des choses qui attirent. Et si on ne fait pas attention, on risque d'avoir une église qui soit simplement un parc d'attractions. Où les gens viennent, l'ambiance, l'atmosphère est bonne, etc. Comme quand les parents amènent les enfants quelque part, ils le regardent en train de jouer à tel jeu, de prendre tel engin, etc. Voyez-vous, ça fait plaisir, non? Alors, si nous ne faisons pas attention, c'est ce qui peut arriver. Aucune assemblée n'est à l'abri de tout ça. Hein? On peut se retrouver, au lieu de prêcher la parole de Dieu, de se retrouver en train de se constituer une cour d'admirateurs. Qu'on va essayer d'arroser, de flatter. ce n'est pas de cette manière que nous allons apporter la guérison à nos nations. La Bible nous dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom prie, je guérirai. Alléluia. Alors nous sommes de ce peuple-là. Et nous pouvons nous mettre à prier pour que nos nations changent. L'immoralité, ça c'est une véritable gangrène. Voyez-vous? Combien de familles sont détruites aujourd'hui? Parce que le papa, irresponsable comme tout, s'est laissé remorquer par une petite maîtresse. Combien de familles détruites, des enfants abandonnés, parce que la femme, eh bien, s'est amourachée de son patron. Et le patron l'a mise dans son chariot. Elle l'a amenée tout droit vers la destruction. Combien, mes amis, à cause du péché, et l'Église doit retrouver, comme je l'ai enseigné tout au long de la semaine, sa position natale. Elle est née à genoux. Alléluia. Elle est née à genoux dans la chambre haute. Elle est née dans la supplication. Elle a demeuré dans la supplication tout au long du livre des Actes. C'est ainsi que le miracle faisait partie de la vie de l'Église à cette époque. Il vivait naturellement de manière surnaturelle et il vivait le surnaturel de manière naturelle. Alléluia. Parce qu'ils étaient conscients que celui qui était avec eux était capable de tout. Alléluia. Lorsqu'ils ont prié à Jérusalem pendant 10 jours, lorsqu'ils ont supplié le Seigneur, les cieux se sont ouverts. Le Saint-Esprit est descendu. Ce jour-là, mes amis, Pierre a prêché, 3000 âmes ont été guéries de la lèpre spirituelle. La nature de Jérusalem avait commencé à changer. C'est la raison pour laquelle tout de suite l'ennemi va susciter une grande persécution. Parce qu'il n'est jamais content. Voyez-vous? Une grande persécution. Parce que le Seigneur commençait à travailler. Alléluia. Ce peuple, que doit-il faire? Eh bien, ce que la Bible lui demande de faire. Si mon peuple, sur qui est invoqué le nom du Seigneur, si mon peuple, le peuple qui m'appartient, si le peuple en qui je vis, s'humilie. On a parlé de l'humilité, hein, non, il n'y a pas longtemps. Hein. Voyez, c'est la même chose. Nous prêchons toujours la même chose. Voyez-vous? Ne venez pas pour chercher une révélation extra-biblique. Ouais. Parce que les gens aiment ça. Ouais. Leur parler des lazards, des iguanes et tout ça, là, ils sont contents. Quand on leur parle des rats, oh, j'ai rêvé d'un rat ou d'une souris, là, ils sont... Ah bon, la souris, c'est qui? C'est ma tante. Arrêtons, mes amis. Il y a encore des chrétiens, oui, j'ai vu. Oui. Cette personne-là, elle est sorcière. Moi, je voudrais toujours qu'on me dise, qu'on m'explique un peu. Qu'est-ce qu'on entend par dire cette sœur est sorcière? Ça veut dire quoi? Vous pouvez me définir ça? Ça veut dire quoi? Parce que le terme sorcier est utilisé, c'est un terme à géométrie variable. Hein? On a appelé des entraîneurs, un entraîneur français qui a entraîné une équipe africaine, s'est dit c'est le sorcier blanc. En disant, c'est ce qu'on voulait dire, que c'est grâce à ses fétiches, grâce à ses gris-gris, grâce je ne sais à quoi. Ça veut dire quoi la sorcellerie? Nous en parlerons. Mais ici, c'est vrai que ça existe, mais ici on l'utilise à toutes les sauces. Ouais. Quelqu'un, tu manques de consécration. Oui. Tu es imbu de toi-même, tu es orgueilleux, arrogant, tu es parfumé de hauteur et d'arrogance. Oui. Et tu cherches à jeter la balle sur l'autre, dis non. Cette sœur-là, dites-moi un peu, elle est de quelle tribu? Elle dit non, depuis qu'elle est arrivée dans mon bureau, il n'y a plus rien qui va. Mais dites-moi un peu, si vraiment ce bureau est consacré au Seigneur, vous pensez que quelqu'un qui viendrait de Kanyama pourrait vous perturber? Si vous êtes sûr, oh, il est en train dans mon bureau, ma gorge, la pomme d'Adam a commencé à bouger. Ah, c'est qu'il y a un problème. Comment ta pomme d'Adam peut bouger? Alors tu n'es pas sûr de ton salut. Si tu es vraiment sûr que celui qui est en toi est plus fort que n'importe quel sorcier, si tu es conscient que celui qui est en toi est tout puissant, mes amis, Pourquoi s'en faire? Pourquoi se préoccuper de cette dame quand bien même ses yeux seraient tout le temps rouges? Voyez comment on se... Vous avez vu ses yeux? Ah non, il me regarde. Ça ne peut être qu'un regard de sorcier. Alors on se retrouve avec des gens au comportement paranoïde, qui voient les démons partout et qui sont instables. Parce que vous ne pouvez pas vivre comme ça. Dès que vous voyez quelqu'un avec les yeux rouges, oh, c'est un sorcier, mais des yeux rouges, vous n'en trouverez toujours. Hein? Avec le soleil qui frappe ici, vous pensez que vous aurez des yeux bleus? Mais c'est ça. Mais oui.
Oui ou non?
Mais oui, vous aurez tout le temps ça. On regarde aux apparences. Parce qu'on a été habitué comme ça. Et quelques aventuriers, quelques troubadours prophétiques se sont infiltrés dans ce créneau-là pour surfer sur les incertitudes des gens, sur le manque d'assurance. Voyez? Et ils deviennent de véritables marchands des prophéties. Et ils vous disent des choses. Et, ah oui, c'est vrai. Ce qu'il m'a dit est vrai. Vous savez, il est beaucoup plus facile de m'adresser à une foule comme celle-ci, de dire: Dieu m'a dit que quelqu'un n'a pas bien dormi. Mais c'est normal. Oui ou non? Si je demande maintenant que celui qui a mal dormi lève la main, il y en aurait plus qu'une main. Oui ou non?
Mais évidemment, peut-être qu'on a eu très froid tout au long de la nuit, on n'a pas bien dormi.
Ou on s'est battu avec le moustique. Donc c'est facile. C'est facile.
Donc on n'a pas besoin de la lumière du Saint-Esprit. Mais non, le Saint-Esprit peut nous révéler un cas tout à fait particulier. Mais il ne va pas s'amuser simplement comme ça pour dire, ah tiens, oui, Dieu m'a dit que tu as mal dormi après. Et après, dites-moi, après. Hein? Oh, tu as rêvé toute la nuit, tu as fait des cauchemars, oui, mais... Après? C'est ça le problème. Alors on se pavane derrière la chair, des attitudes burlesques, théâtrales, voyez? Et les gens aiment ça.
Si je pouvais sauter tous les jours ici, tout le site serait plein. En disant non, j'ai l'onction du dindon. Mais d'autres ont dansé ça, le dindon, je ne sais pas à l'époque, hein. Pour les jeunes comme moi, ils peuvent se souvenir de toutes ces dents de dindon, de poussin, je ne sais pas quoi. Bref, vous voyez, nous devons, mes amis, assumer notre responsabilité. Quelle est cette responsabilité? Eh bien, il n'y a que deux facteurs fondamentaux qui contribuent à la guérison des nations. Il y a la prière. Encore la prière, toujours la prière. Une église qui prie véritablement. Une église qui s'attache véritablement. Une église constituée d'hommes et de femmes, comme je l'ai dit, tout au long de la semaine, qui se réveille pour se saisir de Dieu, comme Ésaïe 62 nous le dit. Une église constituée d'hommes et de femmes qui montrent régulièrement, qui donnent au Seigneur les meilleures heures de la journée, c'est-à-dire tôt le matin. Une église qui éprouve du plaisir à s'attarder dans le face-à-face avec Dieu, c'est une église qui contribue à la guérison d'une nation. Et notre responsabilité, c'est de mobiliser le peuple de Dieu pour l'amener, mes amis, à genoux. Pour l'amener là, dans la chambre haute, où l'église est née, où l'église a commencé. Avec le temps, l'église a perdu de son identité. Et aujourd'hui, l'église souffre d'une sorte de crise d'identité. Mais pour retrouver cette crise d'identité, mes amis, elle doit revenir là où elle est née, à savoir la chambre haute, à savoir en genoux, à savoir dans la supplication, à savoir s'attacher à Dieu en restant attaché à sa vérité, la prière. Et la deuxième chose, c'est la proclamation de l'Évangile. L'Évangile du Christ reste un message, mes amis, inégalé. et inégalable. Le message du Christ reste la seule parole qui puisse impacter une nation et changer sa nature morale et spirituelle. Car l'évangile du Christ est plus qu'une influence à subir. L'évangile du Christ est plus qu'un idéal à atteindre. L'évangile de Christ, mes amis, c'est plus qu'un objectif qu'on s'est assigné. L'évangile du Christ, c'est une personne à recevoir. Et lorsque dans une nation, des hommes et des femmes reçoivent Jésus, leur vie morale change. Alléluia. Et lorsque dans une ville, il y a de plus en plus de gens qui se donnent à Christ, eh bien, la nature morale, la nature spirituelle change. Et les valeurs qui sont le nôtre, les valeurs du royaume de Dieu, vont commencer à formater les gens. Et tout va changer. Et les gens vont prendre conscience de la laideur du péché, de son caractère destructeur, de sa nature abominable. Car le péché, même si aujourd'hui il te procure du plaisir, c'est pour t'achever demain. Voilà les deux agents de guérison de la part de Dieu. Voilà comment le Seigneur a toujours travaillé pour apporter la guérison aux nations. C'est la prière de son Église. C'est la proclamation de sa parole. Alléluia. Cette stratégie, nous la trouvons dans le Nouveau Testament. Lisez le témoignage de la première Église. C'était une Église qui priait, mais c'est aussi une Église qui annonçait le Christ. Alléluia. Qui n'allait pas de village en village pour apporter une nouvelle civilisation dite chrétienne. Non. Mais qui annonçait une personne. Jésus de Nazareth. Alléluia. Les deux doivent marcher ensemble. Si on prie plus sans annoncer la parole de Dieu, ça va créer un déséquilibre. Voyez-vous? On va accumuler une sorte d'énergie, mais qu'on ne saura pas canaliser. Et résultat, ça risque de vous faire exploser. C'est comme ça qu'on a vu des églises exploser en division. Parce qu'à un moment, une telle concentration de forces spirituelles qui sont bonnes, tels des ministères qui naissent, au lieu d'orienter, de les canaliser pour que ces ministères aillent apporter la vie ailleurs, eh bien, ils se sont retrouvés concentrés. Et résultat, il y a eu explosion. Les deux doivent marcher toujours ensemble. La prière ne prendra jamais la place de l'évangélisation et l'évangélisation ne prendra jamais la place de la prière. Les deux doivent aller en. Une illustration. Vous avez le fusil et les cartouches. Un fusil sans cartouche ne servira à rien dans une bataille. Ça serait simplement une belle pièce de musée. Vous pouvez avoir un fusil mitrailleur. Hein? Tant que vous n'avez pas de munitions, ça ne vous servira. Vous allez débarquer sur un champ de bataille, vous faites ça. Les gens peuvent être impressionnés dans un premier temps. Hein? Il dit, oh là là, avec ça, il va nous achever. Et puis, il voit que vous bougez sur la gâchette, il n'y a rien qui sort. Rien qui sort. Il dit, ah. Et puis, à un moment, il dit, viens. Donc, un fusil sans cartouche ne sert à rien. Et des cartouches sans fusil ne peuvent pas non plus inquiéter l'ennemi. Vous venez avec des cartouches, des balles, hein, dans vos mains, sur un champ de bataille. Vous regardez l'adversaire. Hein? Vous lui montrez le calibre de vos munitions. Dans un premier temps, il pense peut-être que vous avez l'arme derrière. Il a peur. Et puis, il voit que vous n'avez qu'à ça. Il dit, mais tiens, on a reculé pour rien. Après quoi? Il est motivé. Oui. L'arc et les flèches, c'est la même chose? Oui ou non? L'arc sans le flèche ne sert à rien. Si vous avez seulement l'arc, sans les flèches, eh bien, vous ne gagnerez jamais une bataille. Vous pourriez avoir des grands archers comme les Élamites. Dans l'Antiquité, on reviendra une fois là-dessus, les Élamites, ce peuple, les descendants d'Élam, à l'époque des Perses, à l'époque de Jérémie évidemment, eh bien, ils avaient une réputation d'être des grands archers. Ils étaient très habiles, ils étaient très reconnus. Vous pouvez en avoir autant d'arcs ou d'archers comme des Élamites, si vous ne leur donnez que des arcs sans flèches, ils ne feront. Ils pourront peut-être impressionner. Ce sont les Élamites. Oh là 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 là. Avec eux, on ne badine pas. Et puis après, ils font ça, il n'y a rien. Ils font ça. Et après, vous dites, ah, mais ils n'ont rien. Allez, hop,
allons-y.
Mais, et aussi, les flèches seules ne peuvent servir à...
ne peuvent pas inquiéter. Vous avez une flèche, vous pouvez lancer comme ça, mais si l'ennemi est à 100, 200, 300 mètres, vous n'y arriverez pas. Hein?
Votre flèche va faire juste quelques mètres et puis tombe, sans aucune puissance.
Mais pour que vous remportiez une bataille avec un arc et des flèches, il faut avoir le 2, le fusil plus les cartouches, l'arc plus les flèches. Vous voyez que les deux sont indispensables.
Il en est de même de la prière et de la proclamation de la parole de Dieu.
Alléluia.
C'est la prière qui rend cette proclamation puissante. Oh, gloire à Dieu. Et ensuite, il faut proclamer. Vous voyez?
C'est pourquoi il y en a qui soutiennent l'œuvre missionnaire par la prière. Voyez-vous? D'autres qui vont pour prêcher.
Ceci est illustré dans la vie de Paul, rapidement. Quand il s'est retrouvé à Damas, quand il a appris qu'on voulait l'exécuter, l'achever, le tuer, parce qu'il venait de rejeter sa foi juive pour se tourner vers le Seigneur, eh bien les frères l'ont pris, nous dit la parole, dans Actes. Ils l'ont mis dans une corbeille et ils l'ont fait descendre par le mur. Vous vous rendez compte? Et il était dans cette corbeille et eux tenaient la corde qui soutenait ou à laquelle était attachée la corbeille. C'est ainsi que Paul a eu la vie sauve. Vous voyez? Il y en a qui tiennent simplement la corde et nous devons la tenir. Et il y en a qui sont dans la corbeille pour proclamer l'évangile. Ils sont en contact avec les puissances des ténèbres. Ils sont en contact, mes amis, avec des gens qui souffrent des lèpres, qui souffrent du sida spirituel, qui sont déformés, qui sont tarés sur le plan moral. Ils sont en contact avec une odeur nauséabonde. Ils sont dans un cimetière, mes amis, où tout n'est que pourriture. Et eux, ils sont appelés à donner la vie là où il y a les ossements. Et cette proclamation a besoin d'être soutenue par la parole de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que Dieu travaille. Et toutes ces vérités sont illustrées, je terminerai par là, par cette histoire que j'aime beaucoup, à chaque fois que je pense à notre pays, à chaque fois que je pense aux autres nations, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser à cette histoire dont il est question dans Marc chapitre 2, où il nous est dit qu'il y avait un homme paralytique, un grabataire, un homme qui ne pouvait pas marcher, qui passait tout son temps sur son grabat, sur son lit, jusqu'au jour où quatre hommes déterminés, quatre hommes avec une vision de guérison, sont allés prendre son lit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient appris que Jésus était à Capernaum, ça se passe à Capernaum, en Galilée. Ils avaient appris que Jésus prêchait dans une maison. Et comme à chaque fois quand il s'est déplacé, il y avait de foules nombreuses qui venaient écouter, manger la parole de Dieu, recevoir la solution à tous leurs problèmes. Ils ont pris ce grabataire, mes amis. Ils se sont dirigés vers le lieu où se trouvait le Seigneur. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé qu'il y avait une foule nombreuse. Il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas moyen de voir le Seigneur. Ils ne se sont pas découragés.
Alléluia.
Ils n'ont pas dit, bon écoutez, cher ami, malgré toute notre bonne volonté, nous ne pouvons pas t'amener jusque là où Jésus se trouve. Vous voyez, tu vois toute cette foule nombreuse. Malgré notre détermination, nous nous arrêtons là parce que nous sommes désarmés. Nous n'allons quand même pas importuner les gens avec un homme sur un lit. Hey, bougez, bougez, alors qu'eux aussi sont venus pour Jésus.
Ils vous diraient, mais bougez, allez, moi aussi je vais le voir. Eh bien, ils ont regardé. Regardez leur détermination. Ils ont vu qu'il n'y avait pas moyen jusqu'à ce qu'ils se rendent compte d'une chose. Que s'il n'y avait pas moyen de voir directement, de passer par la porte normale, devant laquelle il y avait une foule nombreuse, il y avait un autre moyen de passer par le toit.
Mes amis, Dieu aime des gens qui se font violence. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont amené la personne en passant par le toit. Vous pouvez vous rendre compte du risque. Hein? faire passer ce grabataire. Il suffisait d'un petit rien.
L'homme se retrouvait par terre. Il devenait plus que grabataire.
Il se retrouvait par terre. Mais ils ont tout fait. On ne sait pas comment ils ont fait.
Mais une chose est sûre, leur détermination a payé. Leur persévérance a payé. Quand ils l'ont amené, ils l'ont fait descendre par cette ouverture.
Le Seigneur n'a pas regardé au malade tout de suite. Il a regardé aux quatre hommes. Alléluia. La Bible nous dit, Jésus voyant leur foi, pas la foi du malade, mais la foi de ces quatre personnes, s'adressa alors au malade. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et pars.
Cet homme a été guéri, non pas par sa foi, non pas grâce à sa détermination, mais plutôt grâce à la foi de ceux qui l'ont porté. Voilà comment nous devrions nous comporter vis-à-vis de nos nations. Être de véritables intercesseurs pour nos pays.
Prendre notre pays, mes amis, et tout faire pour l'amener jusque devant le Seigneur. Et cela demande du temps. La pluie n'est pas descendue à l'époque du prophète Élie, aussitôt qu'il s'est mis à prier. Il a intercédé. C'est à la septième fois qu'enfin quelque chose s'est formé. Et plus tard, la pluie tombera. Alléluia. Les murs, les murailles de Jéricho ne sont pas tombées en un jour, ni en un seul tour. Il a fallu qu'ils tournent. Il a fallu 7 jours. Et encore au septième jour, il a fallu au septième tour. C'est seulement à ce moment-là que la muraille est tombée. Alléluia. Naaman n'a pas été guéri en un seul plongeon. Hop, pas du tout. Première fois, deuxième fois. Il en est de même, mes amis. Soyons patients. Faisons ce que nous pouvons. Et Dieu fera ce que lui peut faire.
Alléluia.
Dans la plupart des cas, on ne prie pas assez pour notre pays ou pour nos pays. À chaque fois qu'on ouvre la bouche, c'est toujours pour critiquer. Et ce qui est terrible, permettez-moi de vous le dire, ce qui est terrible, c'est que vous trouvez des chrétiens. Vous trouvez des gens en qui Christ habite, se faire l'écho même des mensonges. Ah, on a dit, ah bon, on a dit, eh, mettez l'autorité là. Oh, mais c'est un voleur. Hein? Ah bon? Oui, mais c'est dans le journal. Mais le journal. Permettez-moi de vous dire que chaque journal a sa ligne d'édition et sa ligne de rédaction. Vous pensez que les journaux sont, ou les rédacteurs de ce journal sont objectifs à 100%? Oui ou non?
Non.
Chacun a sa manière de voir les choses. Alors vous avez des chrétiens qui répandent de fausses nouvelles, qui répandent des ragots, qui trouvent même du plaisir à parler du mal des autorités. C'est notre... Ce n'est pas parce que notre frère est là que je l'ai dit, mais je le parle en général. C'est notre devoir de prier pour ceux que Dieu a élevés. La Bible nous dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité, pour le roi, pour le magistrat, car cela est agréable à qui? Or, notre devoir, c'est d'être agréable à? Faisons notre part, Dieu fera le reste. Je crois que nous rendrions un grand service à nos pays si nous pouvions prier plus pour eux que de parler toujours du mal.
Oh, ce pays est maudit. Ah, quel pays. Le Mali avec...
Non. Dieu est capable de tout.
S'il a permis que tu naisses là, c'est qu'il sait que toi seul peux participer à la solution, à la résolution des problèmes. Alors prie, prie. Jette-toi à ses pieds, voyez, et arrête d'avoir tout le temps de propos dans le cœur. Je me souviens, je terminerai par là, c'est comme ce pasteur à qui Dieu avait interpellé. C'était lors d'une campagne, des campagnes présidentielles aux États-Unis.
Il faut voter républicain, ils sont proches de nous, les autres, etc.
Mal, jusqu'à ce que Dieu l'interpelle. Et puis un jour dans une ville, quelques pasteurs l'appellent, venez, il y a un meeting républicain. Et il part. Quand il arrive là-bas, le candidat républicain parle. Et puis le Seigneur lui dit, mais il n'est pas mieux que l'autre. Hein? Il n'est pas mieux que l'autre. Donc, tu ne dois pas parler du mal. Certes, il représente un parti. Opte pour le parti, ce n'est pas un problème. mais ne te mets pas à parler du mal. Voyez-vous, le Seigneur lui-même n'a pas prononcé des mauvaises paroles vis-à-vis d'Hérode. Quand Hérode lui a dit « Es-tu roi ?» Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Je crois que nous devons faire très attention. Prions pour notre pays. Et même l'amour, le vrai patriotisme naît lorsque nous avons beaucoup de temps dans la prière. C'est comme quand tu veux aimer quelqu'un, véritablement un frère. Mets-toi à prier pour lui. Tu vas voir que tu vas avoir un amour sincère pour lui. Oui ou non? Eh bien, si nous voulons que nos pays soient guéris, commençons par les aimer. Car Dieu ne pourra jamais nous envoyer vers des gens que nous ne portons pas dans nos cœurs. Si nous sommes le premier à chaque fois à dire du mal de nos pays, de nos nations, et en même temps aller demander la guérison, cette attitude aux yeux de Dieu est paradoxale. Voyez? Il faut, Seigneur, c'est mon pays, Seigneur, c'est ma nation, Seigneur, c'est mon continent, Seigneur, c'est ma tribu. Voyez-vous, même si vos ancêtres ont été des anthropophages, des cannibales, ce n'est pas un problème. Vous n'avez pas choisi de naître dans votre tribu. Qui a choisi? Alors, prie pour ta tribu, afin que le Seigneur la sauve, alléluia, afin que Dieu fasse un travail. Oui, Dieu veut guérir nos nations, mais pour autant que le peuple sur qui est invoqué son nom, prie pour les nations, alléluia. Cherche la face pour ce pays et se mettre à proclamer la parole de Dieu. Alors Dieu enverra le réveil. Alors Dieu commencera à débarrasser nos pays de toutes sortes de gangrènes sociales, gangrènes spirituelles, gangrènes morales. Et nous verrons que le niveau moral, mes amis, va être de plus en plus élevé. Alléluia. Oui, sera de plus en plus élevé. Heureuse la ville dans laquelle il y a beaucoup de justes. Oui ou non? Mais oui, parce qu'avec beaucoup de justes, Dieu est béni. Et la situation morale et spirituelle change. Heureux le pays dans lequel on trouve des hommes et des femmes nés de nouveau. Et qui assument certaines responsabilités. Parce que ceux-là le font avec la crainte de Dieu dans leur cœur. Amen. Alors, puisque nous sommes ce peuple, je vais vous demander de vous mettre debout. Et nous allons prier pour notre pays. Prier pour le pays qui nous environne. Et demander à tous ceux qui nous suivent à la télé de prier également, chacun pour son pays, afin que Dieu visite nos nations, afin que l'évangile soit proclamé, que nous ne prions pas seulement aujourd'hui, mais qu'à partir d'aujourd'hui, nous nous mettons à prier pour nos nations. Alléluia. Prions tous ensemble. Ô Dieu, nous voulons bénir ton nom pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, te demander à ce que tu poses ta main sur le Congo. Notre Congo, Seigneur, que tu bénisses ce pays, que tu le visites puissamment, en suscitant dans ce pays des hommes et des femmes qui te craignent, en permettant ton Église de ce pays, Seigneur, d'être une Église qui prie, qui intercède pour ce pays, qui prêche la parole de Dieu, et non pas qui flatte les gens. Prions, Seigneur, ô Dieu, nous te prions pour tous les pays d'Afrique, partout, dans le monde, que ton Église s'élève comme un seul homme, entre dans la chambre haute, intercède pour les différentes nations, afin que tu envoies la guérison, afin que tu envoies la délivrance. Merci Jésus d'être la solution à nos problèmes, aux différentes tares qui rongent nos pays. Oh merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Maître. Gloire à toi. Merci, Maître.